Podcast.
Je vais te poser une question que maintenant je suis obligé de te poser. Tu as lancé QuickTime
Oui, j'ai lancé QuickTime. Et ça enregistre.
Et ça enregistre.
J'ai pas juste lancé QuickTime. Non, parce qu'effectivement, je me filme moi-même aussi un petit peu là. J'ai baissé mon siège d'un cran. Je me suis mis à rêver d'un casque un peu plus casque et d'interface audio. Je crois que c'est ta faute.
Je peux te conseiller le Beyer Dynamic DT770 Pro.
Attends, je vais l'écrire parce que... Beyer Dynamic... Redis-moi la référence.
DT770.
DT770.
Tu prends la version 80 ohms, la version de base, qui, il me semble, vaut moins de 100 euros.
80 ohms.
Et n'a pas besoin d'une interface particulière, contrairement à la version 250 ohms que j'ai. Et c'est ultra confortable. J'ai le mien depuis presque 10 ans maintenant.
What ?
Toutes les pièces sont remplaçables. J'ai remplacé
les coussinets
il y a même pas un an. Et c'est super. Et le son est relativement neutre, donc pour faire de la musique ou du montage, c'est génial.
C'est ce qui me manque, parce que souvent j'ai de grosses surprises quand je mixe avec ça, et ensuite
ouais,
que j'écoute
évident,
avec mes AirPods et tout ça, je me suis dit, mode, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que... Ok, tu vois ce que je veux dire. Bonsoir.
Mais c'est le problème quelque part de ce podcast, c'est que... Tu sais, c'est le genre d'achat qui appelle d'autres achats.
C'est Anthony, c'est à la fois la malédiction et la bénédiction de ma vie, parce que,
oui.
Parce que j'adore dépenser, mais c'est vrai que c'est un puits sans fond. Et du coup, quelque part, je serais presque reconnaissant pour le concept de mort. Parce que c'est bien que ça s'arrête à un moment, tu vois. Il y a un moment où c'est juste plus possible. C'est bien que ça s'arrête.
Mais tu vois, tu te dis, ah, ce serait quand même bien un nouveau casque. Donc, effectivement, à mon avis, on ne peut pas faire mieux que le Beyer Dynamic DT770 pour ce genre d'application. Et puis, tu te dis, est-ce que je ne changerais pas mon micro au passage ? Donc, ce que j'ai fait. Hein. Et puis, évidemment, le micro, il faut mettre sur un bras, comme je disais dans l'épisode précédent. Et puis là, tu vois, je regarde ma petite carte son Steinberg et je me dis... Ah, quand même, une petite carte son Apogee, là, ce serait quand même mieux, quoi. Et puis, sans t'en rendre compte, t'as gagné 0 centime parce que ce podcast est sponsorisé par absolument personne.
Ouais, vous avez entendu Autodidote, oui, de là, merci.
Et
franchement, pas cool. Hein.
Donc, t'as gagné très exactement 0 euros et 0 centime, et donc ton bilan comptable, c'est moins 1500 euros, quoi. C'est. Le piège de l'industrie du podcasting.
Ouais, mais quelque part, je trouve ça beaucoup plus équilibré que commencer avec des envies de matériel très élevées. Tu vois, c'est le souci de la musique. J'ai souvent été convaincu, enfin, au début, j'étais vraiment très convaincu, et j'ai mis beaucoup d'années à me débarrasser de ça, qu'il fallait beaucoup de choses pour me permettre de lancer. On met l'excuse sur le dos du matériel, alors que non, c'est en fait, on peut vraiment faire des choses avec des bouts de ficelle, quoi. C'est vraiment, vraiment une possibilité très littérale. La guitare, c'est des bouts de ficelle. Donc,
je confirme.
Voilà, à un moment, c'est juste une question de volonté, quoi, c'est tout.
Ouais. Ouais. C'est un truc qui est un peu regrettable parfois sur YouTube, où tu vois des gens mettre des milliers d'euros dans du matériel. Et à la fin pour faire de la merde, quoi. Et quelques-uns des channels les plus intéressants sur YouTube sont faits avec un iPhone, quoi. Et c'est là que tu te dis, les mauvais artisans, c'est ceux qui ont les meilleurs outils, quoi, quelque part. Il y a probablement un épisode derrière cela. Bref, regardez.
je sens qu'il y a un truc à tiroir. Ouais. C'était pas une phrase, c'était une commode.
Ouh, c'était pas une phrase, c'était une commode. C'est pas mal, ça.
merci. Je travaille au contenu, tu sais.
C'est vrai que c'est aussi ton métier.
Anywho, 37e épisode.
Épisode 37, pardon. Épisode dans lequel je vais faire mon coming out. Bonjour, je m'appelle Anthony Nelson Santos et je regarde Emily in Paris.
Oh, my God. Non, mais les deux saisons.
Ouais, j'avais déjà regardé la saison 1, un jour d'ennui, et parce que c'est un objet médiatique et je voulais savoir de quoi il en retournait. Ça, c'est l'excuse officielle.
Ça, c'est vraiment une excuse de merde, je vais te le dire. T'as pas besoin, c'est pas grave. Au point où on en est, de toute façon, on peut assumer tout ce qu'on dit, je veux dire.
Non, mais il y a...
Quasiment.
Il y a un moment où c'est tellement caricatural, parce que c'est vraiment la manière dont les Américains conçoivent la France, que ça en devient presque... presque vrai, quoi. C'est-à-dire que tu peux regarder ça comme une étude sociologique, à la fois... du fantasme que peut représenter Paris pour les Américains. Mais même dans la saison 2, c'est intéressant, parce que ça se moque aussi des Britanniques. Enfin, ça se moque d'un nombre incalculable de nationalités, donc c'est raciste à la puissance 15. Mais en plus, on sort de Paris. Attention, on va à la Défense.
Quoi ? Mais quelle aventure !
Et c'est pas que le Paris des touristes. Je pense vraiment que la saison 3, c'est Émilie Aubervilliers, quoi. C'est,
Bon, on est prêt à la cuvée, il n'y a pas de problème. Et si elle veut de quoi se fournir Marlboro, elle aura ce qu'il faut. Mais ce qui m'intéressait dans la saison 1, je n'ai pas encore vu la saison 2. Il y a une vidéo qui est sortie après de Netflix aussi, donc plus ou moins officielle, de deux Françaises qui disaient si tel cliché était vrai ou pas. Mais même cette vidéo était fausse, en fait. Rien n'allait dedans. T'avais deux Françaises, je sais pas comment ils les ont trouvées. Mais... ou alors c'est des fausses parisiennes, ou alors... peut-être qu'elles vivent à la Défense, tu vois. C'est possible. Mais ouais, non, c'était très, très bien. Mais en même temps, je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est tellement poussé dans le cliché que ça en devient quelque chose de une nouvelle réalité,
ouais,
presque.
Ouais. Ouais. Et puis, enfin, ça... Si tu acceptes de débrancher la moitié de ton cerveau, c'est drôle. Mais vraiment, quoi.
Ouais. Moi, ce que j'avais apprécié dans la saison 1, c'est que je ne suis pas parisien, je suis breton à la base. Enfin, je ne suis même pas breton, je suis né à Versailles, c'est mon secret honteux. Mais j'ai toujours vécu en Bretagne.
Donc, tu es doublement parisien, puisque tout le monde sait que les Parisiens sont soit de Versailles, soit de Bretagne.
Exact. Quelque part, je suis encore plus légitime que qui que ce soit ici.
Complètement plus que moi, qui suis né à Paris, mais qui est maintenant vécu plus longtemps à Lyon qu'à Paris.
Mais ce que j'aimais dans Emily in Paris, dans la saison 1 en tout cas, c'est que bah justement, enfin, j'ai toujours été très sensible à l'image de Paris dans l'imaginaire, quoi. Je suis très bon vocabulaire aujourd'hui, l'image de Paris dans l'imaginaire. Mais c'est tout ce Paris fantasmé et rêvé, tu vois, que tu vois quand même de temps en temps, qui s'incarne comme ça, un peu comme un fantôme, tu vois. Et ça me fait toujours plaisir de voir ça. Je crois que le fait de vivre à Aubervilliers maintenant en plus me fait aimer encore plus Paris. Et j'apprécie le fait de descendre à Paris pour faire des trucs. C'est bizarre,
descendre à Paris, c'est beau.
Mais c'est ça, parce que techniquement, j'assume d'être en banlieue, tu vois, j'assume. Même si je suis à 100 mètres du périph', j'assume d'être en banlieue. Mais ouais, il y a ce côté, toute la splendeur, tu vois, et tu te rappelles que Paris, ah oui, c'est un peu joli quand même des fois, effectivement. Par accident, des fois, c'est un peu joli.
Outre Emily in Paris, j'ai regardé Silicon Valley, qui est... à peu près autant cliché, et dans un genre assez similaire, ce qui est assez drôle. Mais en fait, je m'étais rendu compte que j'avais jamais regardé plus que la première saison. Et
je ne savais même pas qu'il y en avait plusieurs, en fait.
Il y en a 6 ou 7, quelque chose comme ça.
Ah ouais !
Et en fait, c'est assez bien vu, sur bah justement comme cliché de la Silicon Valley. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça a un côté, presque sans le vouloir, c'est un côté documentaire sur la manière dont les trentenaires blancs médiocres réussissent malgré eux dans la Silicon Valley.
Malgré eux.
Et c'est fatigant, quoi. Il y a un côté... ça va d'échec en échec en échec en échec en échec. Et ça finit sur un énorme échec. Mais d'échec en échec, c'est un énorme succès. Et oui, c'est toute l'histoire d'une certaine case de la Silicon Valley, quoi. C'est crevant à regarder, beaucoup plus qu'Emily in Paris.
Ok, c'est intéressant. Mais du coup, ça parle de quoi exactement ? Parce que Silicon Valley, c'est une société en particulier ou c'est plusieurs boîtes ?
C'est autour d'une société fictive qui s'appelle Pied Piper, qui a fait un algorithme de compression qui, si je dis pas de bêtises, techniquement viole la théorie de l'information.
D'accord.
Et de rebondissement en rebondissement, tu as Ouli, qui est une espèce de clone de Google, qui est un de leurs principaux concurrents, et de rebondissement en rebondissement, ils finissent par créer un internet décentralisé, et sans spoiler, ça ne marche pas. Mais donc c'est... Et tu as évidemment tous les, tout un tas de journalistes spécialisés, tout un tas de patrons de boîtes qui passent faire des coucous dans la série. Et donc ça mélange comme ça la réalité et la fiction. Et c'est aussi ce qui est un peu fatigant, c'est-à-dire que c'est à tel point un cliché que la Silicon Valley elle-même accepte la série comme une des siennes et décide d'y mettre les pieds, quoi. C'est-à-dire que quand t'as le patron de Twitter qui décide de faire une apparition, ou que t'as Kara Swisher, notamment de Recode, qui joue son propre rôle, ça dit quelque chose quand même du nombrilisme de cet univers.
C'est ça, en fait, on pourrait croire que c'est une parodie, mais c'est plus un hommage.
C'est un hommage parce que c'est une parodie, quelque part. C'est-à-dire, la Silicon Valley, c'est la meilleure parodie d'elle-même, quoi. C'est à la fin ce que ça finit par dire.
Ah, je comprends le côté fatigant, ouais. Ouais. Rien que quand tu me l'expliques, ça, je...
Ouais, non, mais il faut.
C'est énervant. Et je précise que je dis pas ça parce que tu l'expliques mal, au contraire, tu l'expliques très bien. Au cas où, il y aurait eu le moindre malentendu.
Et donc, dans le genre parodie d'elle-même, t'as vu quoi, toi?
Bah, figure-toi que j'ai vu Matrix Résurrection. Donc, ça fait longtemps que je voulais le regarder. Parce que dans la bande-annonce, il y avait une remix un peu épique, comme Hollywood sait le faire. Tu sais, ils aiment beaucoup épiquer des trucs, des classiques. Là, c'était White Rabbit de Jefferson Airplane, qui déjà avait été bien maltraité dans Sucker Punch de Zack Snyder. Et là, ils l'ont encore un cran au-dessus. Démembré, orchestralé, enfin, c'est un truc atroce, mais moi j'aime beaucoup. Et du coup Matrix Résurrection, je vais pas envie d'être méchant avec ce film parce que j'ai pas mal d'affection pour les Wachowski et peut-être à cause de leurs échecs récents, je pense que ça a aidé à ce que je les aime bien. Dont Jupiter Ascending qui est quand même un navet total.
Littéralement interstellaire.
Oh, Interstellar. Et curieusement, je me trouve un peu attaché à ça. Je sais pas, c'est à mon corps défendant dans un sens parce que c'est vraiment mauvais comme film et je le regarderai pas à nouveau, quoi. Mais voilà. Peut-être que c'est un certain amour des gloires déchues, en fait. Peut-être que c'est ça. et donc, c'est globalement pato. Il se passe des choses et il y a même de bonnes idées dedans. Je pense vraiment qu'il y a des bonnes idées. À ma grande surprise, Neil Patrick Harris est très bon là-dedans, même son rôle est une bonne idée, enfin, il y a des choses bien amenées. Globalement, c'est pas un très bon film. En fait, il y a toute une interprétation, notamment des amis à qui je posais la question, qui trouvaient que c'était intelligent dans le fait que ça se moquait du fait de faire des films, des suites aux films connus. Donc cette espèce de crise hollywoodienne, de faire toujours des suites, des préquels, des prologues, des trucs comme ça, bon voilà, tout le temps. Mais je pense que même là, ça ne justifie pas comme explication, parce que dans ce cas-là, enfin, si le film existe, c'est bien qu'il y a une volonté de la réalisatrice de le faire, quoi, tu vois. Et dans ce cas-là, c'est quoi? Est-ce qu'elle crache dans la soupe? Est-ce qu'elle est hypocrite? Est-ce que, tu vois, où il est le statement, quoi? Et du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi ce film existe? Dans tous les sens du terme, tu vois. Pourquoi il est là? Dans quel but, qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti et qu'est-ce qu'il essaye de dire? Parce que il dit pas grand-chose, quoi, au final, quand même. C'est beaucoup de flashbacks, de références aux anciens films, beaucoup trop, c'est très nombriliste. Et ouais, c'est un peu lourdingue. Les combats sont très mous. Et il n'y a pas de cette évolution visuelle qu'il y avait dans le premier, évidemment, mais même dans le 2 et 3. Tu sais, où c'est avec ces mouvements un peu différents, où ce stop motion, enfin pas stop motion, mais quand Neo arrêtait toutes les balles d'un seul coup, tu vois, bon, il y a quand même quelque chose de visuel qui claque, quoi.
Ouais.
Là, il n'y a rien de tout ça.
Oui, et je me demande si quelque part, c'est pas le problème, parce que, soyons francs, Matrix est un navet? Matrix est...
Alors, non.
Non, si, si, Matrix est un très mauvais film.
Non.
Si, 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 si.
Non.
Matrix est un très mauvais film et les gens qui pensent que c'est un bon film, c'est parce qu'ils sont restés de grands adolescents un peu niais.
Coupable.
Parlons de choses qui comptent dans ce podcast. et je crois que le seul intérêt de Matrix, c'est qu'il a fait avancer la cinématographie. Enfin, c'est un objet de cinéma, quoi. C'est un film au sens premier du terme, quoi. C'est un...
Effectivement, ouais.
Et je crois que quand t'enlèves ça, ce que tu vois un peu dans le deuxième, un peu moins dans le troisième, où c'est quand même de la 3D un peu tout le temps, mais et peut-être dans celui-là, c'est que si t'enlèves l'effet waouh, il reste pas grand-chose, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Et tu te demandes si c'est vrai que Lana Wachowski a voulu faire quelque chose en autodérision un peu et en se moquant du fait qu'on lui demande de faire une suite. Et dans ce cas-là, on comprend pourquoi elle a choisi de prendre les mêmes acteurs qui ont vieilli et d'autres, de remplacer d'autres acteurs par des gens qui ont rien à voir avec le caractère original. Tu peux le comprendre dans ce cas-là.
Oui.
Mais j'ai du mal à adhérer à cette thèse. Je sais pas trop. Je me demande si c'est possible, en fait, aujourd'hui, à Hollywood, de faire
ça. Disons que ça fait cher, la blague.
C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un bide, je crois.
Écoutez.
Toi d'abord.
Moi d'abord. Écoute, je suis content, le jazz est de retour.
Est-ce qu'il était déjà parti?
C'est assez bizarre. C'est souvent que de fin décembre à début mi-février, il n'y a rien en jazz. Alors que j'ai pas l'impression que ce soit le cas dans d'autres... Enfin, au moment où les premiers albums de Noël arrivent, et où d'ailleurs t'as souvent deux ou trois albums de jazz de Noël, bah t'as le jazz un peu plus sérieux. Je mets plein de guillemets autour de ça, qui disparaît et ça revient qu'autour de la Saint-Valentin. Mais non, j'ai écouté plein de choses intéressantes et je me suis complètement laissé porter par l'algorithme d'Apple qui m'a l'air de faire doucement des progrès. Mais par exemple, j'ai découvert, alors que pourtant il avait été nommé aux Victoires du Jazz en 2015, Grégory Priva, qui est le fils de José, qui était le pianiste de Malavoie. Et donc, qui a un album qui s'appelle Yon, qui est très bien. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Je vais écorcher un nom, tiens, allez. Sibusiso Mashiloane, ou quelque chose comme ça, qui est... lui aussi pianiste, qui est sud-africain. Et ça, c'est vachement marrant parce que c'est une espèce d'ouroboros du jazz. C'est le jazz qui s'inspire des musiques africaines. Et puis ensuite, c'est les musiques africaines qui s'inspirent du jazz. Tu vois, ça revient.
Ah, mais génial!
Et où donc c'est un truc à mi-chemin entre la musique zoulou traditionnelle et le jazz, quoi. Et c'est. C'est pas de la fusion, c'est un truc, c'est un objet à part entière, quoi, et c'est vraiment chouette.
C'est fascinant, ça.
Et je crois que les gens qui entendent pas grand-chose au jazz, mais qui sont intéressés par les musiques ce qu'on appelle les musiques du monde, devraient écouter ça s'appelle tout simplement Music from My People. Et dans ce que j'ai retenu aussi, Maelstrom de Fiona Mombay, qui elle est une violoniste, qui est franco-irlandaise, si je dis pas de bêtises. Et où c'est assez intriguant à écouter, et c'est surtout intriguant à écouter à cause du mixage, qui est super profond, et donc t'as l'impression que le piano est... Enfin, en fait, t'as l'impression d'entendre le piano en profondeur, ce qui est assez rare. Souvent dans les mixages, t'as l'impression que le piano est très unidimensionnel, qu'il est vraiment devant toi, quoi. Et là, t'as l'impression de l'entendre en profondeur, que t'es dans la caisse du piano. C'est assez, assez marrant. Et puis, pas du tout en jazz, mais il y a Apple qui a évidemment mis tout en haut de la page explorer la version du rooftop de Get Back, puisque c'est pas parce que Disney fait le documentaire que Apple devrait pas faire de l'argent. et c'est marrant parce que quand t'as les prises alternatives de morceaux que t'as entendu 100 fois, tu fais « Oui, c'est le morceau que je connais, mais... » Et ça, tu l'as beaucoup en jazz pour le coup, parce qu'on a souvent réédité les albums classiques en remettant les 15 alternatives. Et c'est pas souvent le cas avec les Beatles, donc c'est marrant d'avoir ces morceaux que tu connais par cœur, mais qui sont subtilement différents. Et tu fais, ah tiens, pourquoi ils ont pas fait ça dans la version finale? Et est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Et c'est assez passionnant, je l'ai écouté en boucle ces derniers jours.
Ok, solide. Mm-hmm. J'ai écouté trois albums ces derniers temps, ces 15 derniers jours. Et le premier album s'appelle Hands From Up There. Et c'est d'un groupe qui s'appelle Black Country New Road. C'est du rock. Et c'est un groupe qui avait commis précédemment un autre album dont j'ai oublié le nom, mais vous vous débrouillerez pour le trouver sur Apple Music ou votre plateforme de streaming de prédilection. Et ils sont très jeunes et c'est un album qui date d'il y a moins d'un an, et cet album là donc Hands From Up There l'a suivi donc assez rapidement. Il est sorti il y a quelques jours. Déjà la productivité m'interpelle, je trouve ça assez assez fortiche. C'est un groupe aussi de personnes, enfin ils sont genre 7 ou 8 un truc comme ça. C'est tout 8, enfin moins 1, parce que 2 jours avant la sortie de l'album, le chanteur et parolier de la grande majorité des morceaux a quitté le groupe parce qu'il était... ben simplement, c'est, mentalement, c'était trop dur pour lui, en fait, à assumer. Donc, on va voir comment ça évolue d'ici là. C'est très intéressant, en tout cas, comme trajectoire, le groupe lui-même, parce qu'ils ont été propulsés avec le premier album assez haut dans les sphères du rock indé, et là, ça consacre un peu l'essai, quoi. C'est plus orchestral que le premier album, il y a plus d'instruments, il y a du violon, de l'accordéon, des trucs comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, au début, non, ce qui m'a beaucoup déplu, pour être tout à fait honnête, et que j'ai appris à aimer, c'est que t'es environné par les instruments qu'ils jouent, comme si t'étais avec eux quand ils jouent. Donc non seulement, évidemment, il y a toute la partie texte qu'il faut, je pense, approcher sérieusement, parce qu'il y a pas mal de... C'est assez poétique, quoi, il y a pas mal de métaphores, ça, nanana. Et j'aime beaucoup le site genius.com qui me donne plein d'explications, parce que je comprends jamais rien. Et la musique elle-même, très proche, t'as l'impression que tout est vraiment live, et que le groupe joue pour toi, quoi. C'est très chouette, j'aime beaucoup. À l'opposé de ça, j'ai écouté Mercurial World de Magdalena Bay. Je crois que c'est un album qui date de l'an dernier déjà, donc c'est un peu plus ancien. C'est vraiment l'antithèse, c'est de la pop électro, tout ce qui est plus pop électro. Et j'aime beaucoup aussi, forcément. C'est ce qu'il faut de pétasse, tout en s'amusant beaucoup avec les clichés. Donc il y a des références à Madonna, il y a des onomatopées de Lolita, des trucs comme ça, bon, c'est très bien. Des compos au final qui sont extrêmement ciselés, beaucoup plus complexes aussi que des morceaux de pop lambda, avec des ruptures dans le temps, des ruptures, des altérations cheloues, des trucs comme ça. Et le sens du détail qui me tue à chaque fois, c'est que bah, le début de l'album correspond à la toute fin de l'album, donc tu peux écouter l'album en boucle comme ça, et ça fait un seul ensemble. Et ça me plaît beaucoup, tu sais mon amour pour le sens du détail, donc... Rien que ça, ça pourrait être de la merde, tu vois, j'écouterais quand même.
Ou pour les gimmicks, mais oui.
oui, voilà. Appelle ça comme tu veux, Anthony. Qu'est-ce qu'il est désagréable,
aujourd'hui. Oui, complètement.
Okay. Et le dernier album que j'ai écouté, c'est un très long album qui fait plus de 25 morceaux, je crois, ouais. Qui s'appelle Artifacts de Beirut.
Oui, qui est très bien.
Beirut. Tu connais
C'est rare qu'on arrive à se rejoindre sur un album, donc célébrons ce moment.
Incroyable. Incroyable. C'est un moment historique. Il a fallu 37 épisodes pour le faire. Bah, un peu pareil que Black Country New Road. Donc, t'as un côté très acoustique. Et pareil, j'ai dû... Moi qui suis habitué à la pop mainstream très produite et tout, j'ai dû m'habituer à cette nouvelle sensation. Mais maintenant que je l'ai fait, je suis vraiment très content de l'avoir fait, quoi. C'est un album... J'aime pas les gens qui disent, tu vois, les mots comme bienveillant ou solaire, parce que c'est quand même des gens que j'ai envie de tarter, mais c'est un album bienveillant et solaire, et c'est chaleureux, en fait, c'est vivant et chaleureux.
C'est ça, solaire, ça marche dans l'acception physique du terme. Il y a un côté,
oui, tout à fait,
il y a un
tout
côté
à fait.
Chaud dans cet album.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense pas qu'on puisse être déprimé en écoutant ça. Je pense que c'est réconfortant, sans être non plus le truc qui va te donner... une forme de joie hystérique, tu vois.
Ouais, je crois aussi que ça peut s'écouter quand on est déprimé. Exact. Pas pour être sorti du funk, mais parce que c'est de la... L'image que je me fais de l'album dont tu viens de parler, c'est que c'est de la pop, voilà, super... où c'est quelque part, c'est essayer de te forcer à faire monter ton énergie. Et là, il y a un côté, c'est positif, c'est chaleureux, mais ça ne fait pas monter ton niveau d'énergie, tu vois. Si t'as le moral dans les chaussettes et que t'as pas d'énergie, c'est pas un truc qui va te demander de consommer encore plus d'énergie et qui va finir de te vider.
C'est pas du café, c'est du chocolat chaud.
Il y a de ça.
Ou une tisane, peut-être. Mais une bonne tisane. Mm-hmm. Fruité.
Je sais pas s'il faut mélanger les métaphores, mais ça marche pas mal. Avec un petit bout de pain d'épices, tu vois le genre de
voilà.
Truc.
Voilà. C'est, en fait, c'est un mood.
Voilà, c'est ça. C'est plus un esprit que de la musique. C'est ça. Et en disant ça veut pas dire que c'est de la mauvaise musique. Hein. Ça s'écoute très bien par ailleurs. Mais ouais.
Oui, oui. C'est plutôt heureux.
Et dire que toi et moi, on a eu un blog de critique musicale et on en est à parler de « c'est de la tisane pour le moral ». Putain.
Comme quoi, hein, la roue tourne à bien tourner.
Ouais.
Les caricatures, tu sais. Je te jure. Ah, je te jure, putain. Bon.
Du coup, quittons écouter, allons lire.
Allons lire. Bon, je vais commencer cette
Oui.
fois-ci. Parce que j'ai ces trois articles, mine de rien, assez courts, malgré les pavés de notes que j'ai mis, qui sont surtout des citations de ces articles. Le premier s'appelle, pardon pour l'accent, hein, The Moral Calculations of a Billionaire de Elie Saslow du Washington Post. Un article vraiment fascinant où je l'ai lu sur la recommandation de l'excellent Craig Mod, qu'on salue ici.
Et donc je l'ai lu aussi parce que Craig Mod.
Forcément. Hi Craig, please like this post and give us 5 stars. Et ça parle d'un multimillionnaire. D'un milliardaire,
millionnaire,
c'est milliardaire, ouais, c'est ça. Qui est en gros qui vit très frugalement, qui gagne de l'argent, qui est parti de zéro, qui a gagné sa vie comme ça et qui redonne tout ce qu'il gagne en gros à la communauté de sous forme de fonds, de charité, ce genre de choses. Et c'est très intéressant parce que il y a ce côté étude du phénomène du milliardaire. Sans aucun jugement moral du coup, parce que même la personne elle-même a l'air très aimable, mais comme une sorte d'incident quoi. Le milliardaire n'est pas censé, enfin lui ne se sent pas du tout coupable de quoi que ce soit. Derrière il entend bien les gens qui lui disent c'est à cause de vous que nous on est dans la merde, et en même temps il redonne beaucoup à la charité tout ça. Donc enfin c'est une position intéressante qu'on n'a pas souvent l'occasion je pense de voir.
J'ai eu deux avis sur cet article. La première fois quand je l'ai lu, où je me suis dit c'est intéressant, voilà quelqu'un qui a de l'argent mais qui a réfléchi sur ce que l'argent faisait et sur sa place dans la société et sur le problème mortel que posent les milliardaires pour la société. Et donc j'avais un avis plutôt positif sur la chose. Et puis je l'ai laissé dans un onglet, je l'ai rouvert le lendemain matin où j'étais visiblement de moins bonne humeur. Et où je me suis demandé si c'était pas le genre d'article qui était là pour quelque part excuser l'existence des milliardaires et que c'est pas un peu un article de propagande. Non mais regardez, en fait, au fond d'eux, les milliardaires c'est aussi des humains. Alors que non, pas du tout.
Non, pas du tout. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est une exception parmi les milliardaires.
Oui,
pense que les gens comme Bill Gates sont finalement plus dangereux. Même Bill Gates, je veux dire, hein, son côté philanthrope.
Qui est pourtant pas le pire, c'est ça qui est terrible. C'est que...
Pas le pire. Non, ça va pas. Ça va pas. Mm-mm. Et je dis pas manger les riches parce que je pense que ça a mauvais goût.
Mais quand même.
Ou alors avec beaucoup de sauce.
Ouais, ouais.
Ça fait passer. Anywho, c'était le premier article. Deuxième article, c'était un autre article dont le titre est en anglais. D'ailleurs, les trois articles sont en anglais, donc voilà, tu vas souffrir, Anthony, je suis désolé. Ça s'appelle How to, entre parenthèses, try to, fermer la parenthèse, quit, entre parenthèses, almost, fermer la parenthèse, anything. Donc, si on fait en simple, c'est How to quit anything, de Vivian Manning-Schaffel dans le site Shondaland, que je ne connaissais pas auparavant. Je ne sais pas si c'est un bon site ou pas. Mais j'ai bien aimé l'article, donc le site doit être pas trop mal. cette personne raconte qu'elle est elle-même victime d'addiction. Bon, je pense qu'on l'est tous à certains niveaux, évidemment. Et que une des conceptions qu'on a de l'addiction, c'est que c'est quelque chose qui est entièrement de notre ressort. Et bon, en fait, évidemment, c'est un mécanisme de compensation en général qu'on met en place à la hâte parce qu'on ne sait pas comment gérer les choses négatives qui nous arrivent. On est, je pense, surtout aujourd'hui dans une espèce de tyrannie du 120%, être heureux à 120% du temps. Alors que non, enfin, la vie n'est pas que plaisir, elle est aussi vallée de larmes. Et du coup, on ne sait pas trop comment réagir à ces désarrois qu'on ressent tous. Et l'addiction est est le chemin le plus court vers le plaisir pour court-circuiter cette sensation-là. Donc l'idée est, plutôt que de faire face frontalement à l'addiction, l'idée c'est de développer non pas un, mais plusieurs autres mécanismes de compensation. Donc, évidemment qu'ils soient aussi guidés par le plaisir qu'on a à les exercer. Par exemple, je ne sais pas... t'es accro à la cigarette, bah tu vas apprendre à faire le piano, et puis tu vas faire des mots croisés, et puis tu vas lire un truc qui te plaît et tout ça. Et tout ça fera un panel en fait de décisions possibles pour court-circuiter l'état dans lequel tu es, qui te ferait recourir à l'addiction.
Les gens qui comme moi ont un problème de rapport à la nourriture, je mange quand je m'ennuie et je m'ennuie souvent. savent à quel point ces mécanismes d'évitement sont importants. Et si je bois du thé, si je bois du café, et si je perds du temps à préparer du thé, à préparer du café, c'est que boire du thé ou boire du café, ça remplit ton estomac. Donc finalement, ça satisfait cette faim qui n'est pas vraiment une faim. Mais surtout, le temps perdu à préparer le thé ou le café, c'est aussi le temps que tu ne t'ennuies plus.
Oui.
Et tu n'as pas... Enfin, un alcoolique reste alcoolique, quoi. C'est pas parce que t'as pas bu depuis 20 ans que tu n'es plus alcoolique. Tu restes alcoolique. Donc tu ne peux pas... Tu ne peux pas battre ton addiction quelque part. Mais tu peux la reconnaître. Tu peux savoir quand est-ce que les mécanismes addictifs sont à l'œuvre. Et puis tu peux essayer de, non pas de les combattre, mais de les éviter, de les feinter. Et oui, si au lieu de manger, si au lieu d'aller piller le frigo, le placard à chocolat, tu vas te faire un thé, c'est mieux.
C'est ça, elle le dit assez bien, que l'addiction ne part jamais complètement, mais qu'elle perd son pouvoir nocif au fur et à mesure. Mais que par contre, effectivement, elle est toujours là quoi qu'il arrive, et elle sera toujours là.
Ouais, parce qu'il y a une habitude. Enfin, c'est comme pour le tabac ou pour l'alcool, hein. Il y a l'habitude du geste, donc ça se déprogramme quelque part, mais l'envie part pas, quoi.
Puis trouver ça bien.
Eh ben écoute, je vais m'intercaler entre ton deuxième et ton troisième article. J'ai lu Temps sauvage de Mario Vargas Llosa. Au lieu d'acheter des livres de poche, en ce moment, j'achète les versions un peu plus sympathiques. Là, je l'ai pris chez Gallimard dans La Blanche. Et ça, tu vois, quand on parlait d'achats qui justifient d'autres achats, c'est parce que je sais que je vais acheter une bibliothèque et donc je veux la remplir de livres.
J'allais t'en parler après.
C'est affreux. Et j'ai un gros problème avec cet auteur. Quand il avait reçu son prix Nobel, il avait dit, je cite, « Je déteste toute forme de nationalisme, d'idéologie, ou plutôt de religion provinciale, aux idées courtes et exclusives, qui ronnent l'horizon intellectuel et dissimulent en son sein des préjugés ethniques et racistes, car elles transforment en valeur suprême, en privilège moral et ontologique, la circonstance fortuite du lieu de naissance. » Superbe, magnifique.
Je suis tellement pas d'accord.
Je sais que t'es pas d'accord. Et je trouve assez bizarre de voir le type qui prononce cette phrase, un type qui était un opposant historique au caudillisme, au régime des petits généraux qui ont défait l'Amérique latine dans les années 60 et 70, se faire aujourd'hui le soutien des régimes les plus conservateurs de la planète, y compris dans son Pérou natal. Et ce bouquin, il est intéressant parce qu'il couvre des régimes dictatoriaux. Et tu passes ton temps à te dire, mais qui écrit ? Est-ce que ce personnage communiste, il est con parce qu'il est con et que ça fait avancer l'histoire, ou parce qu'il est communiste ?
Tu veux dire communiste ? Je suis désolé, c'est le soir, je suis un peu fatigué.
Donc, comme la dernière fois, hein, si vous voulez mettre 2 étoiles à ce podcast plutôt qu'à 5, vous pourrez justifier avec cette blague. et je trouve ça chiant... Enfin, je sais qu'il faut séparer l'auteur de l'œuvre et tout ceci et tout cela, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais à la fin. Mais c'est embêtant parce que j'ai envie d'aimer ce livre, mais à chaque fois que j'y rentre, je m'arrête et je fais attends, c'est quand même Vargas Llosa qui écrit. C'est frustrant, un peu.
Mon explication à ça, c'est que. Il n'y a pas de contradiction entre les deux.
Non.
Il faudra que je développe ma pensée. Parce que je sais tout pour l'instant. Mais oui, intéressant. Le dernier article que j'ai lu est une interview, enfin un recueil de quelques phrases de Nick Cave, le chanteur, artiste, compositeur, peintre, sculpteur. Sur la créativité, sur... Bon, en gros, le titre de l'article, c'est « Nick Cave on Creativity, the Myth of Originality and How to Find Your Voice » de Maria Popova sur le site qui s'appelle « The Marginalian ».« The Marginalian ». C'est comme « The Mandalorian », mais en...
Mais en marge.
En marge, voilà.
Pas en marche, en marge. Oh.
Ce serait marrant, un mouvement en marge. génie. Vas-y, dépose le nom de domaine direct. Hein.
Hashtag la gauche.
Hashtag la gauche. Ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans, c'est beaucoup plu, mais que j'ai pas compris à 100% non plus, je vais être honnête avec vous. J'ai pas tout compris, mais j'ai bien aimé. C'est ce que dit Nick Cave sur. Je vais le citer directement en français, traduction un peu pauvre, mais bon, ce sera mieux qu'en anglais. Rien de ce que vous créez ne vous appartient en définitive, et pourtant, tout cela vous appartient. Votre imagination est une danse fortuite entre la mémoire recueillie et l'influence. Elle n'est pas inhérente à vous, c'est plutôt une structure qui attend un allumage spirituel.
Je suis tellement d'accord avec ça.
C'est beau, non ?
Oui.
C'est bien dit,
oui.
Hein ?
Ouais. C'est tellement vrai.
Il continue un peu, mais je vais surtout lire la fin. Ne vous préoccupez pas de ce que vous faites, ça se fera tout seul, et dans une certaine mesure, ça échappe à votre contrôle, peut-être même que ça ne vous regarde pas. Et consacrez-vous à nourrir cet esprit qui vous anime. Mettez votre enthousiasme au service du développement de cette force bonne et essentielle. Ça se fait par un engagement dans l'acte créatif lui-même. Chaque fois que vous entretenez cette étincelle de génie, elle se renforce et enflamme les talents ordinaires de l'imagination. Appliquez-vous pleinement à la tâche, lâchez prise sur le résultat, et votre véritable voix apparaîtra, vous verrez, il ne peut en être autrement.
Ah, fucking man.
Je trouve ça très encourageant sur le processus créatif. Et quand je dis que j'ai pas tout compris, c'est que je pense que j'ai pas encore assez travaillé sur mon étincelle à moi pour en arriver à ce stade de certitude, d'identité. Mais bon, c'est quelque chose qui viendra avec le temps, il faut espérer.
Non, mais ce qu'il dit sur l'imagination, qui est une danse fortuite ou une rencontre fortuite, tu es... Désolé, tu n'es pas un petit flocon de neige unique, moi non plus, et les gens qui nous écoutent non plus. Et finalement, nos individualités, elles sont très illusoires. On est des flocons de neige de la même manière qu'un flocon de neige est un flocon de neige dans une avalanche, quoi. Et où les forces culturelles qui nous entourent, la force de notre éducation, la force de notre langue, bordel. Ce que disait Bargaciosa, quoi, la circonstance fortuite du lieu de naissance. Ce sont des choses qui nous dépassent largement, mais en même temps, ce sont des choses qui travaillent complètement notre imagination et qui travaillent, qui élargissent, mais qui réduisent notre imagination. Je ne peux pas penser certains concepts parce que je parle français, espagnol et anglais et pas d'autres langues. Et c'est pas grave. parfois, faut pas forcer le naturel, quoi. Mettez tout votre enthousiasme au service du développement de cette force bonne et essentielle. Cela se fait par un engagement dans l'acte créatif lui-même. Bordel!
Le bordel est en français dans le texte.
Enfin, ce qu'on disait il y a un ou deux épisodes, quoi, sur ce présent podcast. Parler devant un micro, ça fait un podcast. Jouer de la musique, ça finit par faire de la musique. Écrivez, vous finissez. Enfin, c'est quoi dire, hein, mais c'est en écrivant qu'on écrit. Hein? Engage-toi dans l'acte créatif lui-même. Viens, crée. C'est pas. Enfin. Il n'y a pas d'autre. Enfin, tu ne peux pas devenir artiste si tu ne fais pas d'art, quoi. C'est pas... À la fin, ce n'est pas très compliqué.
Mais est-ce que c'est en achetant qu'on devient acheteur ?
Oui, et juste pour t'emmerder, j'ai acheté les mémoires d'Adrien parce que lol.
J'en suis à la moitié.
Ah, et ben moi aussi.
Ah, bon.
Mathieu qui nous écoute a lui aussi acheté les mémoires d'Adrien. Je propose que les mémoires d'Adrien deviennent le livre fétiche de ce podcast pour 2022 et que tous nos auditeurs et nos auditrices l'achètent et le lisent et le finissent avant toi.
J'ai un vrai problème avec ce livre. C'est que, outre le fait que je le finirai peut-être jamais, mais je pense que je le finirai quand même, c'est que chaque phrase est une citation.
Oui.
C'est tellement riche. Oh. Ok, mais peu importe. Tu sais que j'ai acheté un bouquin moi aussi.
Oh.
Il s'appelle « Pourquoi nous dormons » du docteur Matthew Walker. Et tu sais pourquoi je l'ai acheté ? Je l'ai acheté parce que je l'ai vu en interview... Non, enfin, j'ai vu une interview de Thom Yorke de Radiohead. Je crois que c'était chez Colbert. Et il parlait de son dernier album qui, en l'occurrence, explorait un peu le sommeil et tout ça. Et il a nommé ce livre... Et je me suis dit, tiens, alors chez Weezings, on avait déjà parlé de ce docteur parce qu'on l'avait interviewé pour un truc, parce qu'il y avait ce capteur de sommeil, qui ceci, cela, bon voilà. Et je n'avais pas trop pensé quoi que ce soit de la personne. Et le fait que Thom Yorke en reparle, je me suis dit, tiens, ok, je vais me pencher sur la question.
Il se trouve que j'ai lu ce livre dans sa version originale.
Ah ouais ?
Et donc je ne vais pas t'en parler. C'est un des rares livres dont je n'ai pas publié la critique. Je crois même pas qu'il soit référencé dans mon catalogue d'ailleurs, parce que c'est un livre que j'ai immédiatement désherbé. Donc je m'arrête là. lis-le, je suis curieux d'avoir ton avis à la fin.
Ok. Là, ce sera l'objet de podcast numéro 147.
À peu près. Et puis, je te disais, quitte à acheter des livres, je réfléchis à l'achat de bibliothèque. Je pense que je suis maintenant suffisamment adulte pour avoir la première bibliothèque de ma vie, et j'espère bien la dernière, vu le prix. j'ai reçu un premier élément qui est pas vraiment une bibliothèque, mais qui est un élément qu'on mettra dans l'entrée. Et c'est avec le système de Tilco, qui est un système pas très modulaire, mais qui est fait de morceaux de bois qu'on peut enficher les uns dans les autres. Et je dois dire que depuis que je suis toute petite, je rêve d'un système Vitesse 606, designé par Dieter Rams, mais je suis pas sûr d'avoir les moyens pour m'en acheter un. Et il y a des systèmes comme ça, le système le système Alpha, le système String, enfin, il y a plein de systèmes modulaires, et je dois dire que j'ai très envie d'un système modulaire, mais je sais que c'est absolument pas raisonnable, et j'ai besoin que des gens me disent que c'est absolument pas raisonnable. Et j'ai besoin que des gens me convainquent de ne pas acheter ça et à la fin d'acheter des Billy chez Ikea.
J'aimerais bien que les gens, justement, donnent un avis différent. Ce serait intéressant de convaincre d'acheter ça.
Mais je crois qu'il est temps. Quel âge j'ai ? 35 ans quasiment ? 36 ? Je ne sais plus. Je crois qu'à mon âge, il est temps que j'achète une bibliothèque.
J'ai vu sur les Reels Instagram dont je parlais la semaine dernière, enfin au dernier épisode, pardon, des gens qui, tu sais, tous ces fameux Ikea hack, qu'il faudrait appeler Ikea hack pour aller faire plus court.
Oui.
Ça
existe. On est bien d'accord.
Mais ouais, c'est bizarre, ils disent Ikea hack, ça m'ennuie beaucoup.
Ouais, moi aussi. Bon,
mais les gens. Et j'ai vu la possibilité de faire en sorte que les Billy aillent jusqu'au plafond si tu voulais, quoi, parce que tu peux construire des trucs, des faux trucs, enfin des voilà. J'avais jamais envisagé ça. Et ça m'a un peu interpellé, notamment pour le dressing de la chambre. C'est pas du tout pour les bouquins. Je suis désolé.
Non, mais c'est aussi ce qui me pousse vers les systèmes modulaires, notamment que ce soit le Alpha, le String ou le Vitesse. C'est ce côté presque totalitaire, quoi, de l'approche, qui est une fois que t'en as un, comme c'est modulaire, tu peux en mettre partout. Et c'est ce qui m'embête un peu avec les Billy, et souvent les Ikeaks, c'est justement on met des Billy de manière à faire croire que c'est une bibliothèque sur mesure qui est encastrée, quoi. Et ce que j'aime bien dans les systèmes modulaires, c'est que c'est l'approche inverse. C'est non, le jour où vous partez, vous pouvez repartir avec.
Je crois que c'est le problème de beaucoup de meubles Ikea d'ailleurs, qui survivent pas au déménagement en général. J'ai récemment, Anthony, j'ai récemment succombé à Notion. On utilise... Non, arrête tout de suite. Arrête tout de suite le soupir. Là.
Oui.
Je me sens jugé, après je suis inhibé, je ne peux plus dire correctement ce que je pense.
Vas-y.
On utilise naturellement Notion au travail parce qu'on est des gens branchés. Et,
ça commence bien.
N'est-ce pas ? On n'est pas encore passé chez Swile, donc ça va, on se débrouille pas trop mal.
Alors que nous, oui.
Ah. Cheap. Je sais que le cheap, en plus, c'est même pas un truc de mépris, donc pourquoi j'utilise cheap dans ce cadre-là, je sais pas. Bon, peu importe. On utilise Notion de travail, et je me suis dit, Arnaud, pourquoi ne pas apporter un peu de tourment du travail dans ta vie de tous les jours et te mettre sur Notion ? C'était à peu près ma pensée en vrai. Et je me suis dit, j'avoue que j'ai toujours apprécié une chose chez Notion qui est que, c'est propre, globalement. C'est-à-dire que tu peux, sans trop de soucis, faire des choses assez jolies, un peu organisées, mettre des petits emojis, c'est un peu mignon. Voilà. Et je me suis dit, je vais lister les. Vu que j'ai 87 onglets ouverts actuellement dans Safari sur iOS, ça me stresse un petit peu, c'est une charge mentale. Bon, je vais me mettre ça en liste sur Notion, tiens. Et comme toute adoption d'un nouvel outil passé les 20 ans, c'est très pénible, parce que, en tout cas pour moi, parce que je n'ai pas du tout un cerveau élastique. Du coup, je me force un peu à l'utiliser. Je crois que j'aime toujours bien le côté joli, ça y a pas de problème. Mais en fait, je crois que c'est une fausse bonne idée. En fait, le souci que j'ai avec Notion, c'est que j'utilise beaucoup le système de pages pour hiérarchiser l'information. Et donc, tu peux mettre des pages dans des pages, dans des pages, dans des pages. Et le problème, c'est que ça crée une opacité énorme. Et que du coup, retrouver ce dont tu as besoin est un peu compliqué. J'ai assez peu de pages pour l'instant, mais si je continue à utiliser ce système, j'ai peur qu'à terme, ça fasse comme au travail. Et le travail qui est... Enfin, la situation fait qu'au travail, en fait, on essaie d'utiliser Notion, mais le moteur de recherche est assez pourri. On a plein de pages dedans dans tous les sens, donc maintenant on essaie de mettre des tags, on essaie de... voilà, de se trouver... Même avec Alfred, de faire des raccourcis avec des workflows qui font que ça va chercher dans Notion plutôt que le moteur de recherche de Notion qui est pourri. Mais en fait, au final, tu vas chercher sur Slack, en Notion, quoi. C'est un peu ça le truc. C'est un peu absurde, quoi. Donc c'est bien pour stocker l'information morte, mais c'est pas très bien pour... Enfin, c'est vraiment une base de connaissances dans le sens le moins noble du terme.
Mais c'est qu'en fait, on est presque d'accord. C'est intéressant. C'est embêtant pour le podcast, mais c'est intéressant.
En fait, je sais qu'au début, j'aimais beaucoup et j'étais assez aveugle en fait sur ce qui me déplaisait. Je me disais, mais non, ça va à l'usage, tu vois, je vais m'organiser, je vais faire différemment. En fait, non, tu peux pas faire différemment. Parce que plus tu mets d'informations sur une page, plus elle est lourde, moins elle est pratique à utiliser et flexible, ce que tu aimes dans Notion. Et donc, du coup, plus tu es forcé d'utiliser les pages. Et tu es forcé de recourir à cette opacité. Et donc, en fait, mais c'est assez récent, c'est depuis, franchement, une semaine, quoi. Je suis confronté à ces difficultés-là. Et du coup, je me retrouve d'accord, à mon corps défendant, je me retrouve d'accord avec toi. Et j'en suis vraiment désolé. Ça m'ennuie beaucoup.
Ce qui m'inquiète, alors moins dans Notion que dans d'autres que dans d'autres applications, je pense par exemple à Roam ou à ClickUp ou à DocuWiki, enfin des choses comme ça qui Roam notamment, ils sont très dans le délire des liens bidirectionnels, donc que chaque note fait un lien vers une autre note, bah dans la note de destination, tu as un rétro-lien, et donc toutes les notes comme ça ont des liens bidirectionnels. Ce qui m'inquiète un peu avec ces outils-là, c'est qu'est-ce qui relève de la connaissance et qu'est-ce qui relève de l'illusion de la connaissance? C'est-à-dire que dans Rome, notamment, tu as cette vision du graphe, donc des liens entre les notes. Et moi qui m'intéresse à la métacognition, ça c'est de la métacognition. Et je crains que les gens, quand ils regardent ce graphe, ils pensent qu'ils savent. Mais ils ne savent rien. C'est joli un graphe, ça en envoie. Ah, hein. Oh, regardez, toutes mes notes, elles sont liées entre elles. Regardez à quel point je suis intelligent et j'ai pris des notes parce que j'ai lu tant d'articles de mecs, parce que c'est toujours des mecs, et en général des mecs de la Silicon Valley,
C'est l'erreur.
sur l'importance de prendre des notes et l'importance d'avoir des mots-clés pour pouvoir accrocher des liens dessus. Mais enfin, c'est du simulacre, quoi. C'est une information qui est incroyablement superficielle parce qu'à la fin, c'est une liste à plat. Enfin, c'est pas un graphe de connaissances au sens que Vannevar Bush en parlait dans son article qui décrivait le système du MEMEX. À la fin, je pense que les gens se sentent plus intelligents qu'ils ne sont vraiment face à ce qui est censé représenter la complexité de leur pensée. C'est-à-dire, ils pensent que le graphe montre que leur pensée complexe. Or, d'abord, je ne suis pas certain qu'il faille se vanter d'avoir une pensée complexe. À la fin, je crois au contraire qu'il faut avoir une pensée qui est très simple et très claire. Et surtout, je crois beaucoup dans la mémoire musculaire. Je le dis depuis des années, et Phil Knotts en a fait son slogan, j'écris pour oublier. J'écris pas pour me souvenir. J'écris pour oublier. C'est David Allen qui en parle dans son bouquin Getting Things Done, enfin sur la méthode GTD. Tu ne peux pas être à la fois en contrôle et être relaxé si tu gardes tout dans ta tête. Et d'où la méthode GTD qui te force à faire des listes de tâches ou à prendre des notes et à te décharger la tête. Parce que c'est comme ça que tu prends des décisions claires. Tu te décharges pas la tête pour te souvenir. Tu te décharges la tête pour oublier. L'importance de l'oubli pour faire de la place pour la suite. Enfin, et c'est toute l'idée, c'est toute l'idée derrière Metro Zen Dodo, hein, où ça a souvent été, c'est encore aujourd'hui le slogan, c'est note pour oublier, quoi. C'est, parfois, je suis obligé de revenir sur Metro Zen Dodo pour voir qu'est-ce que j'ai dit sur le sujet, où est-ce que j'ai parlé du sujet. Mmh. Et je me rends compte que oui, non seulement j'en ai parlé, mais j'en ai parlé il y a 10 ans, j'en ai parlé encore mieux que ce que je viens d'écrire. Et quelque part, c'est ça, quoi. Mon cerveau, mon autre cerveau, mon alter cerveau, il est là, il est à portée de main. Dans mes carnets, c'est pareil, quoi. Je prends des notes sur papier depuis toujours. J'ai des dizaines de carnets dans des boîtes partout dans l'appartement. La moitié n'est pas scannée, et je m'en fous. L'important, c'est pas de pouvoir y revenir, comme dans Rome ou comme dans Notion. L'important, c'est l'existence même de ces notes. Le fait qu'elles m'aient servi à clarifier ma pensée, qu'elle m'ait servi à oublier. Et je crois vraiment que parfois c'est un piège de prendre des notes. Et je crois que le premier de ces pièges-là, c'est de penser que prendre des notes, ça va te permettre de te souvenir. Si tu fais ça, ça sert à rien de prendre des notes, c'est foutu. Parce que si tu gardes l'index dans ta tête, ou que tu gardes l'illusion du graphe dans ta tête, bah, c'est la même chose que d'avoir gardé les idées, quoi. Donc ça sert à rien.
Ça résonne beaucoup, ce que tu dis là me résonne beaucoup dans mon expérience, parce que c'est vrai que je vois même musicalement, tu vois, on est avec le groupe, on prend des notes, on enregistre les répétitions. Et je pense qu'il y a une intention qui est bonne, qui est de réécouter le matériau pour retravailler dessus après, et je crois que 50% de l'usage effectif de ces enregistrements, c'est ça. Mmh. Mais la ligne est très fine entre cet usage-là et la collecte, le hoarding, quoi, comment on dit ça, l'accumulation.
Oui, complètement.
Mais alors, quand tu veux vraiment te souvenir de quelque chose, comment tu fais?
je vais immédiatement me contredire et te dire je prends des notes. Non, mais enfin... D'abord, je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui est actionnable et ce qui n'est pas actionnable. Ce qui est actionnable, c'est une tâche. Ouais. C'est pas une note. On pourrait. Merlin Mann a fait sa carrière sur la distinction entre une tâche et un événement de calendrier. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais un événement de calendrier n'est pas une tâche. Une tâche n'est pas forcément un événement de calendrier. Et ce qui n'est pas actionnable immédiatement, c'est une note. Mais quelque part, une note dans mon esprit, elle a une durée de vie extraordinairement limitée. Si c'est une idée qui vaut la peine d'être développée et d'être actionnée, alors cette note va devenir dans les heures ou dans les jours qui viennent des tâches ou dans mon cas parce que j'écris un article, un livre, enfin les notes de notre podcast. Bon sang, on va créer une fois qu'on aura fini d'enregistrer cet épisode, on va créer les notes pour le prochain épisode. Elles ont une durée de vie finie, 14 jours. On va s'en servir, on va les jeter. Et à quoi ça sert dès lors? Enfin, à quoi servent ces notes dès lors? Tu vois, c'est pas. Et où quelque part il faut prendre des notes en ayant conscience de leur obsolescence. C'est-à-dire que le mieux qui puisse arriver à une note, c'est qu'elle devienne inutile. Parce que ça veut dire que tu en as extrait toute sa valeur, quoi. Et il m'arrive, quand je vais sortir un nouveau carnet pour remplacer le carnet que je viens de finir, de rouvrir un carnet d'il y a 10 ans, enfin, c'est à peu près aussi intéressant que de faire le tour de ma poubelle, quoi. Enfin, c'est... ça sert à rien. Il y a sans doute de très bonnes idées, mais je ne suis pas à ce point imbu de moi-même que je pense que toutes mes idées aient à ce point de la valeur que si ce carnet, soudainement, je le jetais, ce serait la fin du monde. Non. C'était sans doute une très bonne idée à l'époque. Si j'en ai rien fait, c'est que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça dans l'absolu. Et les bonnes idées ont... Les bonnes idées ou les obsessions... elles ont ceci de particulier qu'elles reviennent. Et je crois, hein, c'était ma directrice de recherche qui disait qu'il fallait oublier deux fois pour apprendre définitivement. J'y crois, hein. Il m'arrive d'avoir écrit trois fois la même chose. En général, la troisième fois, je publie. Et c'est bien d'avoir pris des notes les deux fois précédentes, et c'est bien de les avoir pris au format numérique parce que tu peux revenir dessus. Je ne compte plus le nombre d'articles que j'ai écrit trois fois, et que j'ai écrit trois fois presque exactement pareil à la virgule près. Ce qui prouve que finalement, prendre une note, l'important c'est pas de l'avoir gardée, l'important c'est de l'avoir écrite. Et c'est cette mémoire
c'est ça.
Presque osmotique dans la frappe de la note qui compte et qui fait que ça reste, mais pas le fichier lui-même, pas le carnet lui-même. Au final, la note elle-même est presque inconséquente.
Oui, le terme est très intéressant. Je pense que dans la note, dans l'acte de jeter une note, bon, il y a ce jet justement, un peu comme une. En fait, une fois qu'elle est couchée sur le papier et qu'elle meurt, c'est là qu'elle peut donner du fruit dans un sens. C'est parce qu'elle servira. Comme tu dis, enfin, les obsessions reviennent, quoi. C'est des choses qui sont ancrées profond. Et de toute manière, le fait d'avoir couché la note dans l'état participe à comment dire, une pensée en mouvement et ne peut pas être figée, quoi. Si tu la figes, par contre, elle participe à la construction d'un édifice. Et c'est là que tu peux aller plus loin en accumulant les notes au fur et à mesure, comme des briques, quoi. Ouais, ok, je vois très bien, ouais. Je pense que c'est intéressant de noter, effectivement, pour ça, pour cette idée de plus tard, avoir un édifice.
Et c'est là où est la force de la chose, c'est-à-dire que t'as oublié.
Hein.
Donc t'as l'énergie mentale, la bande passante mentale pour avoir de nouvelles idées. Et si cette idée que t'as oubliée revient, elle va revenir avec le moyen de retrouver ses petits frères et ses petites sœurs. Et donc tu vas te souvenir, ah oui, c'était à peu près à ce moment-là, donc tu vas aller chercher le carnet ou tu vas taper dans le champ de recherche de Notion ou de Note ou d'Ulysses ou de ce que t'as envie d'utiliser. Et tu peux te mettre à dialoguer avec ton toi du passé. Et parfois, d'ailleurs, mon moi du passé, il a laissé des notes à mon moi du futur en disant « Tiens, au fait, je te donne ceci. Tu verras quand tu reviendras dans 2 ans ou dans 4 ans ou dans 10 ans si ça te fait encore quelque chose. » Mais je crois vraiment dans cette puissance physique de la note, même de la note numérique, hein, mais dans ce qu'elle fait à ton cerveau, dans ce qu'elle fait à ton corps. Et que ce qu'elle libère, l'énergie qu'elle libère est plus importante que ce qu'elle fixe. Et je le dis en étant le mec qui a développé un système super compliqué pour cataloguer ses lectures et cataloguer les citations dans ses lectures. Et vous savez quoi, vous qui nous écoutez? Eh ben, ça sert à rien. Je ne reviens quasiment jamais sur les anciennes critiques et sur les anciennes citations.
Ça m'évoque deux choses, ce que tu dis là. La première, c'est que est-ce que les outils comme Notion ne pousse pas à une espèce d'usage contre nature de la note, dans le sens où elles exigent sa mise à jour permanente. Ça, c'est une question que je mets en suspens pour l'instant. Deuxième question, deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est est-ce que c'est pas le même phénomène avec les photos, tu vois?
J'en ajoute une troisième qui, à mon avis, répond aux deux. est-ce que c'est pas le genre d'outil qui provoque un fétichisme de la note?
Ouh, j'aime bien ça.
Et en transformant la note en ce truc à ce point compliqué qu'il faut, dans le cas de Rome, avoir des liens bidirectionnels, ou dans le cas de Notion, ou de tous les outils qui ont copié Notion, être capable de mettre des fichiers Word, des fichiers Excel, tout l'univers du web, des sources de données, enfin tout ce que tu as envie, hein, toute l'énergie thermique de l'univers dans une note, est-ce que finalement, à la fin, c'est encore une note? Et est-ce qu'elle accomplit encore son office? Est-ce que Notion, ça n'est pas à la fin une machine à détruire des idées?
Ah, c'est trop puissant pour moi. oui. Est-ce qu'on peut dire quelque part que les gens qui utilisent Notion ont peur de la mort?
Mais ils ont raison. Enfin, je
bien sûr.
Je ne peux pas ne pas dire que je prends des notes pour anticiper ma future sénilité. Enfin, il y a de ça aussi, c'est évident. Quelque part, ce qui m'inquiète, c'est tous ces billets de blog. Et enfin, ça m'inquiète beaucoup moins que le réchauffement climatique et toutes ces choses. Mais
Et les discours de Pécresse.
Perdus dans le métaverse. Ce qui m'inquiète, c'est tous les billets de blog, tout le métavers précisément qu'il y a autour de Notion, quoi. C'est ce discours sur le discours. Enfin, c'est bien d'écrire des billets de blog sur Notion. Ce serait bien de prendre des notes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu passes plus de temps à discuter des bienfaits de ton système de notes et que tu passes plus de temps à créer des outils pour retrouver tes notes qu'à prendre des notes, faut peut-être se poser des questions, quoi. Et finalement, un stylo Bic et un Moleskine, c'est peut-être pas si mal que ça, quoi.
Moleskine ou Rodia, hein, d'ailleurs, le papier est très
bien. Oui, si vous avez le choix, vous prenez pas du tout un stylo Bic, vous prenez un stylo plume avec de la vraie encre, et évidemment, vous écrivez sur du papier Rodia. Mais
On salue aussi Claire Fontaine qui pourrait nous soutenir sur les SEO.
100 fois. Mais un petit bloc Rodia Orange avec un silo bic, à la fin, ça marche. Enfin, il y a une industrie entière qui est la mienne qui s'est construite là-dessus. Donc, Notion me fait le même effet que PowerPoint.
Wow. Ok. Développe, je t'en prie.
C'est-à-dire que j'ai écrit là-dessus et j'ai écrit là-dessus. Preuve que parfois les bonnes idées, ça va vite. J'ai écrit ça en 40 minutes dans le train. J'ai eu l'idée, j'ai écrit l'article. PowerPoint, c'est une machine, c'est une déchiqueteuse comme Notion. C'est une machine à détruire l'imagination des gens parmi les plus imaginatifs de la planète, qui sont les marketeurs. Et on leur demande de packager leurs idées, de packager toute cette créativité morbide, mais créativité, en slides, en diapositives. Mais bordel. Et Notion me fait un peu cette idée. Encore une fois, hein, quand tu passes plus de temps à créer la structure de la note qu'à écrire...
C'est peut-être ça la puissance de Google, la suite Google, quand même. C'est que chaque chose fait... Enfin, les outils sont presque sommaires. Mm-hmm. Et curieusement, ça me rend plus... Dès que j'ai besoin de travailler, c'est quand même... Je me sens beaucoup plus à l'aise sur un Google Doc que sur une page Notion.
J'adorais Google Wave, qui est probablement le précurseur de Notion, mais à la fin, Google Docs marche mieux parce que c'est infiniment plus simple et que surtout, c'est contextuel. Moi, je pense que cette idée de la page qui est capable d'avoir tout un tas de représentations différentes de l'information, quelque part, porte en elle-même les germes de la destruction de la page. C'est-à-dire que c'est pas une page, c'est une mauvaise métaphore, c'est pas une page. C'est une espèce d'énorme scrapbook. Et je veux dire, on sait où ça finit, les scrapbooks. Ça finit à la poubelle, toujours. Je connais personne qui a gardé les scrapbooks toute sa vie. Et surtout qui reviennent, quoi. Et en même temps, Google Sheets, par exemple, ça n'est pas Excel. C'est à la fois beaucoup plus simple qu'Excel et beaucoup plus puissant. Tu as littéralement toute la puissance du web sous tes doigts. Tu peux taper dans une colonne des noms de pays, tu peux taper dans la colonne d'à côté le mot capital, tu dragues et automatiquement Google te remplace les cellules blanches par les capitales des pays. Et je trouve ça infiniment plus profond et infiniment plus utile que la possibilité d'embedder des vidéos YouTube dans mes notes. Et dans le cas de Sheets, si tu veux, il y a la réalité d'un usage. Quand tu utilises ce genre d'outil, c'est parce que t'en as absolument besoin. Et ce qui m'inquiète dans ces outils à la mode, encore une fois, pas seulement Notion, mais d'autres, c'est qu'il y a un aspect performatif de la chose. Regardez, je prends des notes.
Oh, c'est quelque chose de, c'est dingue que tu dis ça, parce que je pense, c'est exactement ce à quoi je pensais juste après. C'est que ce qui m'a frappé quand j'ai ouvert mon compte Notion, c'est qu'il donne une liste de templates longues comme le bras. Tu vas sur Google Sheet, tu ouvres directement le tableur et en fait, tu y as accès directement. Et si tu veux chercher les fonctions, vas-y, sont, mais il faut les chercher. Si tu vas sur Notion, ça se défend d'exister par une suite de genre, regardez tout ce que je peux faire, tu vois. Et tu te sens du coup un peu obligé, un peu poussé à faire ces choses-là que tu feras jamais. Et en fait, je crois que ça te pousse effectivement à t'épuiser intellectuellement. Parce que, évidemment, de manière involontaire, enfin, j'espère en tout cas. Si nos chaînes nous écoutent, ils peuvent quand même nous sponsoriser aussi. Mais c'est que tu te sens obligé de performer à ce niveau-là, d'être à la hauteur de l'exigence de l'outil, parce que l'outil te dit, c'est possible, fais-le.
Oui.
Ce qui n'existe pas du tout dans les autres. Et c'est un peu le problème que j'ai avec Pages, par exemple, par rapport à TextEdit. C'est que tu vas sur Pages, tu es accueilli par une liste de modèles. Et. Tu dois, entre l'intention d'ouvrir Pages et l'écriture, il y a plusieurs secondes qui s'écoulent, qui sont très très longues.
C'est David qui disait ça, que toi et moi on connaît. Bosman ou Bowman, je me souviens jamais, comment on dit?
Tu sais quoi, je crois que j'ai jamais su, mais on le salue en tout cas.
Donc c'est David que toi et moi connaissons et qui a été mon boss pendant quelques années chez Compétences Mac, qui disait que ce qui l'embêtait avec certains appareils électroniques, c'était et notamment avec les applications de prise de notes, c'était que le temps de déverrouiller le téléphone et de lancer l'application de prise de notes, c'était le temps d'oublier l'idée. Et ces outils font interface. Ce sont des interfaces, mais ils font interface. Et une interface, ça peut évidemment être quelque chose qui communique et quelque chose qui augmente, ça peut être aussi un mur. Et Je suis certain qu'il y a des gens qui prennent que des notes textuelles dans Notion. J'ai même une suspicion, c'est que l'immense majorité des notes Notion ne sont que des notes textuelles. Et que...
Je pense que sans ça, ils ne pourraient jamais survivre en termes de serveur, déjà, de base.
Oui, et puis je pense qu'à la fin, tout le... Comment dire ? Tout le discours sur les fonctions d'augmentation que donne Notion, il est nul et non avenu. C'est un outil qui cherche son usage, c'est une solution qui cherche son problème.
C'est quelque chose d'assez commun, je crois, dans le
monde. Oui, c'est évident. Mmh. Et ça ne veut pas dire qu'il faille pas augmenter les notes. Mmh. Note, l'application d'Apple le fait très bien. Ou si tu as ajouté dans tes notes des liens hypertextes, ou des images, ou des vidéos, tu as une visualisation pour voir toutes les pièces jointes de tes notes. Tu peux les retrouver. Tu peux ajouter des tags. Tu peux même, en bidouillant un peu, ajouter des liens bidirectionnels. Mais le cœur, c'est la note. Et quand tu ouvres une note, la seule chose que tu peux y mettre de manière évidente, c'est du texte, bordel.
À ce niveau-là, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur l'iPad avec la note rapide.
Excellent. Ou les coins actifs sur macOS Monterey, où tu crées une note contextuelle, c'est-à-dire que si tu la crées depuis une page web Safari, elle se souvient de l'endroit où elle a été créée et elle va te chercher le lien, mais elle ne te le montre pas par défaut. Elle n'interrompt pas ta pensée par défaut. Elle n'augmente pas, elle ne prétend pas augmenter ta pensée. Elle te laisse penser et ensuite, elle te donne du contexte. Je crois que c'est pas tout à fait pareil que l'inverse.
Oui.
Et je crois que c'est infiniment moins présomptueux et infiniment plus respectueux. Et pourtant, on parle d'une boîte qu'on a souvent critiquée ici même pour parfois son manque de respect des préférences de l'utilisateur.
Et du coup, ça veut dire quoi, osmotique?